Je ne vais pas poser ça sous silence. Bien. Nous, sujet qu'on va parler aujourd'hui, faire face à nos échecs. Naturellement, on doit parler un peu des échecs. Je vais vous parler un peu des miennes, OK? Avant d'entrer dans le vif du sujet. On recule quelques années, on se rappelle le feu, et après le feu, ça, c'était pour nous un gros échec. OK? C'est un échec que l'on vit, que l'on va se rappeler longtemps. Ça, c'est ce genre d'échec-là. Mais il y a d'autres modèles d'échecs, des petits échecs. Vous arrivez le matin, vous savez que vous devez ouvrir votre parole de Dieu, que vous devez lire, vous devez... Et tout d'un coup, Facebook te pop-up d'en face. Ah, ben je vais regarder juste une vidéo. Là, tu regardes un ou deux vidéos. Tu dis, là, ça va être le dernier. Non, l'avant-dernier. Lui, ça va être le dernier. Non, c'est encore l'avant-dernier. Puis là, tu te rends compte, un heure plus tard, que tu n'as pas encore ouvert ta parole de Dieu, puis tu es encore sur Facebook en train de regarder des vidéos. Un autre échec. Là, il y a toutes sortes d'échecs dans la vie. Toutes sortes de choses à assumer. Et là, tu dis, « Ah, Seigneur, excuse-moi, je te demande pardon, Seigneur, j'ai préféré Facebook à apprendre de toi. » Mais, laissez-moi, avant de commencer le sujet, vous introduire l'histoire d'un jeune homme, grand et maigre, qui ne l'a pas eu facile. Ce jeune homme a dû commencer à travailler à l'âge de 7 ans. Parce que sa famille a perdu son logis et ils sont devenus des itinérants. 2 ans plus tard, sa mère décède. Il prend des petits boulots alors jusqu'à l'âge de 20 ans, jusqu'à temps qu'il soit renvoyé de son travail de gérant de magasin. Mais là, il voit qu'il a la capacité d'opérer un magasin. À l'âge de 23 ans, il emprunte de l'argent pour acheter un commerce. Son partenaire meurt 3 ans plus tard. Et là, sa dette a doublé, parce qu'il est seul à assumer ce qu'il s'assumait à deux. Et il va avoir besoin de plusieurs années avant de rembourser ce qu'il doit. Il approche la trentaine et il est encore célibataire, mais là, il demande en mariage une jeune fille qu'il courtise depuis 4 ans. Et la jeune femme le rejette. Un autre échec. 2 fois, il se présente pour siéger au Congrès et 2 fois, il est refusé. Ses demandes, ses références sont très peu impressionnantes. À 37 ans, il était finalement élu, mais par la suite, il est exclu par vote. Il a échoué 2 fois pour un poste de sénateur. Il a échoué dans sa tentative de devenir vice-président. Personne plus que lui n'est conscient des sentiments qui accompagnent un échec. Il disait, « Je suis le plus misérable des hommes. Est-ce que je suis devenu meilleur? Je ne le sais pas. » Certains disaient qu'ils ne savaient pas quand ils devaient s'arrêter. Et c'est tant mieux, parce qu'à l'âge de 51 ans, Abraham Lincoln est devenu peut-être le meilleur président que les États-Unis ont jamais eu. Mais sa vie n'a été que d'échec en échec pour finalement réussir. Des échecs sont incontournables dans notre vie. Ça, ce n'est pas du pessimisme, c'est du réalisme. Nous vivons et nous allons toujours vivre des échecs. Paul le mentionne très poétiquement dans notre texte, dans 2 Corinthiens, au chapitre 4 et au verset 7. Et je n'avais pas viré ma Bible là. Il dit, « Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. » Nous portons ce trésor dans des vases de terre. J'avais eu l'idée d'emmener, vous savez, des pots de grès où on met des fleurs dedans. Là. J'ai acheté le pot de grès. Puis là, il était en avant de la table chez nous. Puis je disais, ouais, il faudrait que je le casse pour montrer la fragilité du pot. J'ai jamais réussi à le casser. J'ai dit, ah, c'est de valeur perdre un pot comme ça. Il est quand même beau. Mais je vous le dis, c'est facile à casser. J'avais juste à faire cling, puis il serait cassé. C'est ça le vase de terre. C'est fragile. C'est un trésor qui est à l'intérieur. Et ce trésor-là, il est à l'intérieur de nous. Mais Dieu, selon toute logique, décide de mettre une chose précieuse à l'intérieur de quelque chose qui est friable, qui n'a pas beaucoup de valeur. C'est quoi ce trésor-là? C'est l'Évangile. L'Évangile, pas juste l'annonce du salut. Là. On parle de l'Évangile dans le grand terme. Là. C'est-à-dire, nous sommes des Évangiles. Nous devrions refléter la gloire de Dieu en tout temps. C'est d'ailleurs pour ça que Dieu nous a sauvés, pour être des adorateurs et de pouvoir étendre cet Évangile-là, de pouvoir dire, vous marchez à tous les jours dans la gloire de Dieu et les gens vont voir ça. Et c'est ça l'Évangile. Mais on me sert de l'eau ici, dans une bouteille de plastique. OK? Maintenant, je le mets dans une belle tasse. OK? Cette tasse est dédiée aux mamans. C'est une belle tasse, franchement. Mais que je prenne de l'eau dans la bouteille de plastique qui n'a aucune valeur, ou que je prenne de l'eau dans la tasse, c'est la même eau. C'est le même message. Que ça soit bien décoré, que ce soit physiquement très beau, le message est le même. Donc, le contenu a beaucoup plus de valeur que le contenant lui-même. Dieu nous donne quelque chose à donner, l'Évangile. L'idée du verset ici, c'est lorsque Jésus nous dit dans Jean 15, 5, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » En 1947, dans les grottes en Israël, ils ont retrouvé les anciens manuscrits de la parole de Dieu dans des jars de terre. Aujourd'hui, les jarres sont détruites, ils n'ont aucune valeur, mais le message qu'ils contenaient, la parole, est gardé et est encore étudié aujourd'hui. Le verset est clair. Afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu. Une grande puissance est attribuée à Dieu. Mais pourquoi à Dieu? Parce que Dieu ne fait jamais d'échec. Parce que sa justice ne faillit jamais. Parce que sa compassion ne faillit jamais. Parce que sa parole ne faillit jamais. Il dit que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Pourquoi pas à nous? Parce que nous avons de la difficulté. Nous avons de la difficulté à demeurer en lui, selon Psaume 14. On a de la difficulté à le craindre, selon Luc 23. On a de la misère à l'honorer, selon Malachie au chapitre 2. À l'aimer dans 1 Corinthiens, à lui obéir dans 2 Rois, à se rappeler de lui, à le rechercher dans 2 Chroniques, à le servir dans Deutéronome, à le croire dans Matthieu 6. On est des vases très imparfaits. On a beaucoup de difficultés à suivre le Seigneur. Mais la chose importante, la chose qui m'ébranle à chaque fois, c'est que Dieu, il n'est pas surpris de ça. Dieu, il n'est pas surpris. Il n'est pas surpris de nos échecs. Dieu est compatissant. Il a la compassion. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. À cet endroit-là et à bien d'autres endroits, mais je ne voulais pas embarrasser trop la diapositive, j'ai décidé de ne pas les mettre. Mais Dieu ne perd pas la mémoire à nous regarder aller, comme souvent on fait avec nos enfants. On regarde nos enfants, puis là, on perd patience. On brasse la tête, puis on dit, encore une fois. Ça fait X fois que j'ai dit de ne pas faire ça. Mais il fait encore. Dieu n'est pas comme ça. Dieu est compatissant. OK, pas de problème, recommence, jusqu'à temps que tu l'aies. Et je vais avoir la patience de t'attendre, je vais avoir la compassion de comprendre que tu n'es pas parfait. Mais je vais te donner une autre chance de revenir, et constamment. C'est d'ailleurs la première chose qu'on doit se rappeler en cas d'échec. Même si on porte la responsabilité, parce qu'il y a l'échec, on peut en porter la responsabilité ou ça peut venir d'ailleurs. Mais la première chose que Dieu nous amène à se rappeler, c'est qu'il ne nous condamne pas. Il comprend, parce que ses compassions sont sans limite. Où nous conduisent les échecs? Pourquoi avoir des échecs? Où ça nous conduit, ces échecs? Paul nous parle de la réalité des échecs, mais il nous parle aussi des raisons de nos échecs. Dans 2 Corinthiens, au chapitre 4 et au verset 17 et 18, dans le même chapitre, nous lisons « Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. » Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Ces passages nous amènent à plusieurs contrastes. De l'affliction à la gloire. Du moment présent à un avenir éternel. De la légèreté à un poids de gloire. Des choses visibles aux choses invisibles. Du passager à l'éternité. On vit aujourd'hui des échecs afin d'en arriver à une démesure de gloire. L'hiver passé, j'ai vécu dans une maison très riche et j'ai vu une démesure de richesse. Ben, une démesure pour moi, peut-être pas pour les riches de ce monde, là, mais pour moi, c'était une démesure. Ça faisait trop, il y en avait trop. C'est bien trop riche ici, là. Bien, je dois m'attendre à une démesure de gloire que le Seigneur m'amène à vivre, même si je vis des échecs aujourd'hui. Le verset qui pop dans ma tête lorsque je faisais cette prédication-là, c'est Colossiens 3:4. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Je vais vivre, je vais être avec Christ lorsqu'il va paraître dans la gloire. On tombe accidentellement, temporairement, mais nous nous dirigeons vers un succès important et éternel. Nos regards sont ce qui paraît, l'apparence, ce qui est visible, tandis que ce qui est invisible regarde à l'éternité. Quel encouragement est-ce que l'on a face à quelque chose qui nous brise? Les échecs, ça nous brise. Ils sont nombreux et dans tous les aspects de votre vie. Et souvent dur à supporter. Un échec, ce n'est pas facile. Même si les échecs finissent par atteindre notre homme extérieur, on a la capacité de se régénérer, de régénérer notre homme intérieur. Et c'est le dernier contraste, notre homme extérieur et notre homme intérieur. Parfois, les échecs nous amène à des situations difficiles. Mais nous savons que Dieu ne regarde pas à cela. Dieu regarde à ce que notre homme intérieur puisse grandir, puisse se régénérer. Et c'est un peu ce que l'échec fait, dans la mesure où ce que l'on prend courage. Comme le verset le dit au chapitre 4, au verset 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Nous ne laissons pas aller les choses. Nous gardons le courage et lorsque même notre homme extérieur s'est détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Mais il faut savoir comment. Comment se battre contre l'échec? Comment en arriver à ce que l'homme intérieur se régénère? Le premier pas, c'est de reconnaître l'échec. De reconnaître que nous avons fait un échec. Reconnaître la part que nous pourrions avoir dans cet échec. Ça ne sert à rien de la skipper. Ça paraît plus facile à dire qu'à faire. Mais je vais vous donner un exemple. Les gens disent, les divorcés, les gens qui sont divorcés, souvent ils vont dire, j'entends, ils disent, le mariage, j'ai manqué mon mariage. Mon mariage a été un échec. Pas vrai? C'est absolument faux. Le mariage est une institution parfaite créé par Dieu, qui ne faillit pas. Le mariage est parfait, mais les personnes à l'intérieur du mariage sont responsables de l'échec. Voilà la vraie cause de l'échec. Ce n'est pas le mariage. Il y a une joke qui se promène dans la société, la principale cause du divorce, c'est le mariage. Ce n'est pas vrai. La principale cause du divorce, c'est les gens qui composent le mariage. C'est déculpabilisant de dire « mon mariage a été un échec ». Ce serait plutôt de dire, c'est moins évident de dire « voilà, ma responsabilité dans cet échec était ou est ». Quelle est ma responsabilité dans l'échec? Qu'est-ce que je dois voir? Qu'est-ce que je dois examiner dans l'échec? Peu importe l'échec que l'on vit. Peu importe l'échec que l'on vit, qu'est-ce que je dois voir? Lorsque ça fait une heure que je fais du Facebook au lieu de lire ma parole, qu'est-ce que je dois regarder? Est-ce que c'est Facebook qui est le coupable? Est-ce que je dois commencer à actionner Facebook? Comme les gens qui actionnent les compagnies de tabac parce qu'ils ont fumé. C'est les compagnies de tabac là, qui ont fait que j'ai le cancer. T'aurais pas dû y toucher. Lorsque l'on fait cette introspection, on doit se garder à la mémoire que ce n'est pas tous nos échecs qui sont le produit de notre péché. Parfois, on vit dans un monde brisé par le péché. Job en est un exemple. Job, qui était un homme saint, un homme qui savait faire les choses, qui donnait des sacrifices au cas que ses fils aient commis des péchés. Il faisait des sacrifices pour ses fils, pour ses enfants. Il était un homme saint, pas parfait, mais saint. Et pourtant, il a vécu échec par-dessus échec, échec par-dessus échec. L'important, c'est d'être franc dans notre recherche. C'est d'être vraiment conscient. L'Esprit aussi peut nous révéler ce que nous avons à confesser et à repentir. Curieusement, ceux qui se connectent avec leur passé, ceux qui font des introspections, qui font ce genre d'introspection, ont une marche victorieuse. Contrairement à ceux qui ne le font pas, qui finissent par en être esclaves de ce qui pèse sur eux. Ou ils mettent ça en oubli. Reconnaître notre échec, reconnaître notre responsabilité dans l'échec, la confesser à Dieu et se repentir de ce que l'on a fait, nous amène à ouvrir notre cœur à Dieu et d'accepter son pardon. Ça nous rend conscients. Ça nous rend conscients de ce que nous sommes et ce que nous devrions être. Ça nous rend conscients qu'il y a des choses que je ne devrais plus jamais faire. Il y a des choses que je dois éviter. Nous devons appliquer la leçon de l'échec. L'échec peut être parfois très difficile, mais l'échec, sans qu'il y ait cette nouvelle sagesse qui s'installe à l'intérieur de nous, vous savez, c'est quoi la sagesse? Vous avez une définition dans votre tête, c'est quoi la sagesse? La sagesse, c'est l'application de nos connaissances que nous avons vécues. J'applique ce que j'ai vécu. Je fais attention, ce que j'ai vécu va me rapporter quelque chose si j'y fais attention, si je ne refais pas toujours la même chose. Einstein disait que l'idiotie, c'est de refaire toujours les mêmes choses en pensant qu'il était pour avoir un autre résultat. Je vais tenir compte de mes échecs et je vais les mettre devant Dieu. Je vais comprendre c'est quoi. Mais sans cette nouvelle sagesse, c'est inutile d'avoir des échecs. L'inutile devient très peu utile, pour ne pas dire inutile. On a la chance d'apprendre quelque chose à travers ce que l'on a vécu. Et c'est à nous d'en profiter. On apprend de l'échec. On disait, il y a longtemps, le docteur Salk, qui a produit le vaccin contre la polio, il a fait 200 échecs pour trouver le vaccin de la polio. C'est ce que les journaux disent. Il est rendu à ce 200e échec. Le médecin n'avait pas la même vision. Il disait, j'ai trouvé 200 manières différentes de ne pas produire le vaccin de la polio. J'ai trouvé quelque chose. J'ai trouvé 200 manières de ne pas le faire. Un jour, je vais trouver la bonne manière si je continue à chercher. Ce n'est pas l'échec qui décourage. C'est nous qui se décourageons devant l'échec. L'échec est un fait de vie. L'échec est un fait de vie, pas une manière de vivre. L'échec est un événement. L'échec est un événement de la vie. Personne ne peut s'identifier à un échec. L'échec est quelque chose que l'on fait et non pas quelque chose que l'on devient. Si vous vous voyez comme un échec, vous accumulerez échec par-dessus échec. Et c'est le pire constat que l'on peut imaginer. Dieu ne nous voit pas comme un échec. Il nous voit comme son enfant qui a des échecs. Même lorsque la délivrance tarde à venir, même lorsqu'on ne trouve pas de réponse à l'échec, même lorsque l'on vit intensément dans notre échec, Dieu ne nous voit pas comme un échec. Il nous voit comme un enfant qui a de la misère à grandir. Il nous voit comme un enfant qui ne comprend pas toujours. Pierre en est un bon exemple. On se rappelle que Pierre a eu un échec cuisant lorsqu'il a renié le Seigneur. Il a trois fois renié, même après avoir été averti quelques heures avant. « Tu vas me renier. »« Non, 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 non. »« Je suis safe, je suis garanti de ma shot. Je ne te renierai pas. » Par contre, il a eu le discours de la Pentecôte. Et ce discours-là de la Pentecôte a été vraiment un très bon discours. On devrait même l'inviter à notre prochaine soirée d'évangélisation. Ce serait bon. Hein, Trevor, tu prends ça en note, inviter Pierre. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre le reniement de Pierre et le discours de la Pentecôte? Qu'est-ce qui s'est passé? Pierre a été conscient du pardon de Jésus. Vous vous rappelez, Jean 21, lorsqu'il a été sur le bord de la plage, lorsqu'il a mangé avec le Seigneur avait préparé un repas, ils étaient à la pêche, ils ont sorti du poisson, on ne sait plus comment en avoir, et ils sont arrivés sur le bord de la plage, et le Seigneur a dit, « Pierre, m'aimes-tu? » Par trois fois. Vous vous rappelez de cela? Et Pierre est devenu conscient du pardon que Jésus pouvait donner, même à un reniement. C'est dur de renier quelqu'un. C'est dur surtout pour celui qui est renié. C'était à Jésus de pardonner, et il l'a fait. Et qu'est-ce que ça l'a produit? Ça l'a produit une vie vraiment fidèle au Seigneur, où ce que le discours de la Pentecôte a eu vraiment un impact. Parce que Pierre a été dégagé de ce poids de son échec. Ça l'a été enlevé de lui. Pierre a rencontré Jésus sur la plage, et il a vraiment mis les choses au clair. Ça a été un événement dans la vie de Pierre. Ça n'a pas été ce qui identifie Pierre. Même si nous, on dit Pierre, c'est un renieur. C'est pas vrai. Pierre a eu cet événement-là dans sa vie. C'était un échec passager. C'était un échec qui n'a fait qu'un temps. Et c'est la particularité de l'échec. Se relever de l'échec et repartir. On connaît tous l'événement de la vie de Jonas. Jonas a fait un flop total dans ce que Dieu lui a demandé. Jonas a manqué d'obéissance, il a manqué de compassion, il a même pensé qu'il pouvait se cacher de Dieu. Où est-ce qu'il avait la tête, Jonas? C'est vraiment ce qu'on caractérise comme étant un vrai échec. Mais on connaît Dieu, plein de compassion. Il ne l'a pas rejeté. Il sait de quoi nous sommes faits. Il sait de quoi Jonas était fait. Il a dit, je vais t'apporter une leçon. Je vais te donner une leçon. C'est pas toujours agréable d'avoir des leçons de Dieu. Je ne pense pas que vivre trois jours dans un ventre de poisson, ça doit être le meilleur endroit au monde. Hein? Mais ça l'a amené à réfléchir, ça l'a amené à changer, ça l'a amené à comprendre qui Dieu était. Et lui-même s'est écrié à Dieu. Et lorsque, malgré tout ce qu'il pensait, malgré tout ce qu'il connaissait, malgré tout ce qu'il était, il a décidé d'obéir à Dieu. Et le résultat, 120 000 âmes se sont repenties de leurs péchés. 120 000 âmes. C'est peut-être plus Jonas qu'on devrait inviter. Mais je pense qu'il est parti en Espagne, pas sûr. Ce que l'on doit penser de l'échec, c'est que ce n'est qu'une raison pour se relever l'échec. Ce n'est qu'une raison pour mettre devant Dieu et de dire, « Seigneur, je repars. Je te demande pardon. » Pas « je te demande pardon », je te confesse mes péchés, je te confesse mon échec. Et Seigneur, je repars pour ta gloire et pour ton nom. Parce que c'est pour ça que je suis ici, pour ta gloire et pour ton nom. Et finalement, éviter de juger les échecs des autres. Super important. Éviter de juger les échecs des autres. On peut peut-être avoir du plaisir. Comme je me rappelle, je l'ai peut-être encore ce défaut-là, je mélange les CH puis les S. Quand je suis nerveux, là, je mélange les CH puis les S. Puis pour moi, c'est une chasseuse. Ou on va chanter une Sanchon. Ça peut arriver. Et quand j'ai commencé, je vois ma fille, là, puis quand j'ai commencé, je voyais mes filles qui se tordaient sur les chaises quand je faisais cette erreur-là. Ça, j'en tiens pas rigueur. C'est correct. Mais ça a toujours été une farce. Mais jamais ils ont pu dire quelque part, « Ah, tu fais ça, tu fais ça. » Il y avait un certain respect. Mais éviter de juger les échecs des autres. Ce n'est pas ce que Dieu vous demande. On peut se rappeler l'histoire de l'homme riche de Lazare, dans Luc 16. Lazare qui semblait avoir vécu une vie d'échec. Mais finalement, dans le séjour des morts, c'était complètement l'opposé. Lazare avait la gloire de Dieu, pas l'homme riche. L'homme riche, lui, ne vivait pas une vie d'échec. C'était une vie remplie de bénédictions et pleine. Mais c'était l'inverse dans le séjour des morts. L'homme riche a passé son éternité. J'aimerais vous laisser avec une dernière histoire sur éviter de juger les échecs. Cette histoire s'appelle l'échec du Moravien. La Moravie, c'est un pays, c'est aussi un groupe de personnes qui croient que la Bible est la seule autorité sur cette terre. Et c'est l'histoire de George Smith, un missionnaire moravien qui œuvrait en Afrique. Il a été actif une période de temps très courte. Et il n'y a eu qu'une seule conversion avec George Smith, une pauvre femme. Et peu après la conversion de cette femme, le missionnaire meurt sur ses genoux, en train de prier pour l'Afrique. Ceux qui avaient envoyé, les sponsors de M. Smith, ont fait le constat, son voyage a été un échec. Une seule personne, un missionnaire, qui a coûté les yeux de la tête, probablement, qui a coûté très cher. Sauf, un peu plus tard, des hommes sont allés sur le lieu où le missionnaire priait. Ils ont trouvé une Bible. Et ils ont rencontré la pauvre femme qui avait été convertie. 100 ans plus tard, 13 000 âmes se sont converties partant du ministère de George Smith. Vous voyez ce que Dieu fait avec un échec. Donc, lorsque vous voyez quelqu'un qui a fait un échec, ça ne sert à rien de juger. Il est inutile de juger. Peut-être que Dieu va profiter de cela pour faire grandir cette personne-là. Puis peut-être que Dieu va se servir de ça pour son ministère, pour sa gloire, dans la mesure que la personne va pouvoir le dédier à Dieu. Il est inutile, c'est le serviteur de Dieu, ce n'est pas notre serviteur. Et Dieu va s'arranger avec ça. Il va s'arranger avec ses échecs aussi. Vous vous rappelez la phrase de Joseph à ses frères inquiets dans Genèse 50-20. « Vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. » Vous aviez médité de me faire du mal. Échec. Je voulais que ça soit un échec. C'était même ma responsabilité. Mais Dieu a dit non, non, non. M'a changé ça. M'a faire du bien avec ça. Et c'est ce que Dieu a fait. Donc, évitez de juger nos frères, nos sœurs. Évitez même de juger les inconvertis. Parfois, les échecs peuvent les emmener à Dieu. C'est ce que l'on comprend des échecs. Et c'est ce qu'on veut laisser. Peut-être que vous êtes en échec aujourd'hui. Peut-être que vous avez une vie qui est difficile à vivre. Confessez, reconnaître, confesser, se repentir, dire au Seigneur, « Prends ce que je vis et fais-en quelque chose de bien pour ta gloire, pour ton nom. » Il y avait une femme qui priait, puis qui parce que son mari tombait aveugle, et c'était une mort annoncée, finalement, parce qu'il était pour vivre encore quelques années, mais cette femme-là était très découragée de tout cela. Puis son pasteur la rencontre, il dit, « je vais prier pour toi, pour que les preuves que tu passes, puis tout ça. » La femme, maintenant, le pasteur, a dit, « Ah, tu vas prier pour quoi, déjà? » Elle a dit, « Je vais prier, le pasteur a dit, « Je vais prier pour qu'elle ait la force de passer au travers de cette épreuve-là. » Fait que la femme a dit, « Tu peux-tu rajouter dans ta prière de prier pour que j'aie la sagesse, que tout ce que je vis soit pour la gloire de Dieu? » Que tout ce que je vis puisse être vraiment, que Dieu puisse en être glorifié, même dans les épreuves. On va prier. Merci Seigneur, merci infiniment pour ce que tu mets devant nous. Seigneur, ce que tu nous vivons facile ou difficile parfois, peut être tourné pour ta gloire, pour ton nom. Peut faire en sorte, Seigneur, que tu puisses être glorifié. Permets que notre vie soit cela, que notre vie soit constamment pour ta gloire, pour ton nom. Les réussites, les échecs, les bouts faciles, les bouts difficiles, et que tout cela, Seigneur, tu puisses en être vraiment béni. C'est ce que nous voudrions le plus au monde, parce que c'est ce que tu nous demandes, par le beau nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.